Nous avons installé notre studio au rez-de-chaussée d'une petite maison londonienne dans le quartier de King's Cross à Londres, une ville où il y a 68 ans, un certain George Orwell publiait un ouvrage d'anticipation intitulé 1984, un extrait du film adapté de ce livre.
Alors, ce comité de 9 langues,
il fait des heures supplémentaires. Le plus gros déchet, ce sont les adjectifs. Le plus gros problème, calquer la langue au rythme du progrès scientifique.
Oui.
Quelle belle chose que la destruction des mots. Tu as vu la 10e édition du dictionnaire Smith? Épaisse comme ça. La 11e sera encore moins épaisse.
Oui, au fond, la révolution sera vraiment terminée quand la langue sera parfaite.
Le secret, passer du traduire aux pensées directes, et de là en réponse automatique. Pas besoin d'autodiscipline.
1984, apparaît-il, était très à la mode après l'élection de Trump. Je ne pense pas que l'élection législative britannique fera en sorte que George Orwell revienne à la mode, si jamais il n'a cessé de l'être, d'ailleurs, en Grande-Bretagne. Mais en tout cas, Richard Vinan, vous pensez que on est plus dans une comédie que dans le tragique avec cette dissolution ratée. Vous êtes professeur d'histoire au King's College de Londres et vous avez notamment publié en 2009 Thatcher's Britain, donc un livre sur l'Angleterre de Margaret Thatcher. À côté de vous se trouve John Henley. Vous avez été chef, John Henley, du bureau parisien du quotidien The Guardian pendant 10 ans et vous êtes aujourd'hui le correspondant en charge des affaires européennes. Et je suis également en compagnie de ma camarade Annabelle Grelier de la rédaction. Bonjour à tous les trois. On a de plus en plus de mal à comprendre les Anglais. Ça fait des siècles qu'on ne vous comprend pas, John Henley. Et là, en l'occurrence, vous avez voulu le Brexit et aujourd'hui, vous ne votez pas pour Theresa May, qui pourtant nous avait promis un vrai Brexit. Un Brexit means Brexit.
Tout à fait, elle nous avait promis un Brexit des plus durs. Je ne suis pas sûr que ce soit non plus un vote, même si c'est totalement surprenant, c'est un véritable tremblement de terre. Ce n'est pas forcément un vote contre le Brexit, hein, et je pense pas que ce sera interprété comme ça par les partis politiques. Ça c'est largement accepté. Le parti travailliste et le parti conservateur ont accepté la phrase qui tue ici, de toute façon pour ceux qui avaient voté pour Remain, donc pour rester, c'est la volonté, il faut que la volonté du peuple soit respectée. Donc le résultat du référendum va rester, mais il est très possible effectivement qu'on aura un Brexit très différent que celui que Theresa May avait prévu.
Richard Vinan, c'est le programme des conservateurs qui n'a pas convaincu, ce qui explique qu'aujourd'hui ce parti n'est pas à la majorité absolue, notamment des questions relevant de la santé, du financement des dépenses liées à la vieillesse. Pourquoi ça n'a pas convaincu?
Je crois que c'est une partie le programme, c'est une partie la personnalité de Theresa May aussi, qui a beaucoup raté, finalement, parce que c'était une campagne très, très axée sur elle, sur elle comme dame de fer, etc., etc. Ça n'a pas bien passé, finalement. Je crois que, un peu, c'est des questions de politique liées à la santé, qui est très important. Je me demande aussi si ce n'est pas très lié aux universités, parce qu'il paraît qu'il y a une grande ravage de la jeunesse hier, et que surtout les étudiants ont largement voté.
Les jeunes avaient peu voté au moment du Brexit et ils avaient majoritairement voté contre le Brexit. Aujourd'hui, ils se seraient rattrapés?
Je crois un peu. J'ai l'impression. Hier, comme tout le monde, j'étais étonné par le résultat. Je suis étonné par le résultat, comme vous avez dit que les Français ne comprennent pas les Anglais. Moi,
nous non plus.
Je comprends les Anglais non plus. mais il y a un seul truc que j'ai compris hier. En regardant les queues devant les bureaux de vote dans les villes universitaires, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe ici.
Les attentats ont joué?
Je crois assez peu, finalement. Et ça, c'est bizarre. On a dit que c'est vraiment House of Cards, où un gouvernement peut jouer avec la sécurité.
Et finalement, la série.
Oui,
qu'on appelle House of Cards en français.
Oui, oui,
exactement. Pour le traduire.
Excusez-moi.
Non, mais c'est on dit la même chose.
mais finalement, ça a peu joué en partie parce que Corbyn, la qualité de Corbyn, surtout, c'est le courage. Et il a parlé directement en disant c'est un peu notre faute à cause de nos interventions en Irak, etc. Et ça, bizarrement, c'est une position assez populaire, même parmi un certain électorat de droite.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que Jeremy Corbyn va former un gouvernement? Est-ce que le Parti conservateur va réussir à se rattraper aux branches, sachant que Theresa May va quand même avoir beaucoup de mal à se maintenir au pouvoir, John Henley?
Je pense que la plus grande probabilité reste un gouvernement conservateur. J'imagine, avec les unionistes de l'Irlande du Nord, qui ont toujours soutenu le Parti conservateur britannique. Comme ça, il y aurait une majorité gouvernementale de peut-être 2 ou 3 sièges. C'est très, très, très peu. Mais je vois difficilement comment Jeremy Corbyn et le Parti travailliste peut former une vraie coalition, surtout parce que les libéraux-démocrates ont juré que non, plus de coalition. Eux, ils ont été terriblement blessés par la dernière coalition avec les conservateurs. Les Écossais du SNP aussi. Donc voilà, une coalition formelle de gauche progressiste. Me semble très peu probable. Et en tout cas, les chiffres, les sièges, les députés n'y sont pas.
Annabelle Grolier.
Oui, on parlait de un petit peu cette campagne qui avait opposé 2 personnalités, celle de Theresa May et celle de Jeremy Corbyn. Mais Jeremy Corbyn, effectivement, s'est avéré un très bon orateur, mais surtout, je pense qu'il a su parler aux gens, et particulièrement sur le terrain social. Parce que quand même, il y a toute cette politique d'austérité qui existe et qui est là et qui est prégnante en Angleterre, alors que Theresa May, qui avait commencé sur le social juste après le Brexit, a carrément abandonné quasiment ce terrain pendant cette campagne.
C'était un vote contre l'austérité. Je pense que c'était pour beaucoup, surtout pour les jeunes, c'était un vote contre l'austérité. C'était un vote pour dire, écoutez, on peut pas. C'est à quelle vie nous attend en fait. On peut pas se permettre d'acheter un petit appartement minable dans le sud de l'Angleterre. Qu'est-ce qu'on aura comme emploi précaire, etc., etc. Donc oui, c'était une vote.
Et vous parlez d'acheter un appartement, mais on parle même de loyer. Les loyers sont faramineux.
C'est clair.
À Londres, le marché de l'emploi est très tendu.
Mais ce qui était aussi, pour souligner aussi ce qu'a dit Richard, c'était presque comme si plus en plus on voyait Theresa May, moins on l'appréciait, plus on voyait Jeremy Corbyn, mieux on l'aimait. C'était vraiment la question des personnalités a beaucoup joué.
Richard Vinen, cela dit, on nous promettait une catastrophe au moment du Brexit, et semble-t-il, cette catastrophe n'a pas eu lieu.
Pas encore. On verra.
Vous l'attendez?
Non plus, encore.
Ça commence à arriver.
Il y a des indicateurs, il y a l'inflation, absolument. Les prix de la consommation.
Le taux de croissance en Grande-Bretagne est passé du premier en Europe au quasiment dernier.
On pense aux années 70, qui n'étaient pas une belle époque pour l'Angleterre. Donc, niveau politique, avec un gouvernement faible, avec des petits partis, et niveau économique avec l'inflation, ça ressemble beaucoup à 1974, quelque chose comme ça.
Et c'est ça qui a expliqué la venue au pouvoir de Margaret Thatcher, et pourtant celle qui prétendait être son héritière n'a pas manifestement eu les faveurs des électeurs.
Et oui, et il y a une grande différence entre Margaret Thatcher et Theresa May, c'est que Margaret Thatcher croyait dans son projet. Il faut dire que Theresa May, finalement, elle croit. Parce qu'elle n'a pas voté Brexit. Et maintenant, elle a une politique axée complètement sur le Brexit.
Et puis, elle s'est défendue quand même de ressembler à Margaret Thatcher. Elle s'en est beaucoup défendue. Hein.
Surtout, ils ont construit les conservateurs ont construit une campagne autour de la personnalité de Theresa May. Et en fin de compte, il paraît qu'elle n'en a pas. elle n'en a pas. Donc c'est un problème.
Si elle en a une, d'après les quotidiens britanniques, on la traite de robot, on dit qu'elle n'est capable que de débiter les éléments de langage. Elle a eu, sur le plan médiatique, un certain nombre de choix discutables, comme celui par exemple de ne pas participer au débat et d'envoyer sa ministre de l'Intérieur, qui d'ailleurs a été battue aux législatives. Donc on voit quand même qu'il y a un certain nombre d'axes stratégiques qui ne sont pas clairs. Et toujours dans l'idée que l'on ne vous comprend pas, vous les Anglais, et vous aviez un parti qui était un parti de droite dure, pour ne pas dire autre chose, Richard Vinan UKIP, qui avait le vent en poupe, ce parti a recueilli moins de 5% des voix. Là aussi, comment expliquer ce revers?
En partie parce que UKIP est fini à cause de Brexit, précisément. C'était simplement pour cette cause que UKIP a existé. En plus, il y a un problème du chef de UKIP. Donc il a
Nigel Farage.
Oui, Farage était un chef charismatique dans un sens, et son successeur est beaucoup moins efficace. C'est un peu ça, je crois.
Ça veut dire que la tentation UKIP est aujourd'hui derrière vous en Angleterre, John Henley?
Ça, je sais pas. Je pense que si le Brexit qu'on aura s'avère être trop doux, c'est-à-dire si on reste trop près de l'Union européenne, surtout si on ne sort pas de la juridiction de la Cour européenne de justice, si on a la question de l'immigration a beaucoup joué, c'était deuxième ou troisième dans les facteurs motivants sur le vote, et aussi dans ces législatives. Donc je pense que les facteurs qui ont poussé vers le Brexit existent toujours, et l'immigration est-on l'un des facteurs majeurs. Donc je pense que si on s'achemine vers un Brexit qui nous laisse lié plus ou moins avec l'Union européenne, il y aura un vote de résistance.
Et Theresa May, parmi les choses qu'elle a martelées dans cette campagne, et notamment après les attentats, a remis en cause le modèle multiculturel anglais. Est-ce que ça a joué en sa faveur ou en sa défaveur?
Écoutez, ça c'est très difficile à dire. Moi, je sais pas du tout à quel point les attentats ont joué.
Je parle pas des attentats, mais plus généralement du modèle présenté comme communautariste.
Je pense que tout le monde est conscient qu'il y a un problème, mais ça, on a su depuis 2005, depuis les attentats de 7 juillet 2005. Nous, on s'est beaucoup vanté de notre modèle multiculturel par rapport, par exemple, au modèle républicain de la France. On a compris que ni l'un ni l'autre avait vraiment réussi.
Richard Vinan.
Mais en plus, le pays est divisé. Donc, divisé entre les villes et la campagne ou les petites villes, divisé entre Londres et l'Angleterre profonde. Donc, à Londres, je crois que l'immigration, le multiculturalisme sont bien acceptés.
Bien sûr.
Et j'ai l'impression que c'est un peu cette vote urbaine des jeunes qui a voté Labour hier.
Annabelle Grolier.
Alors justement, moi, avec ce vote des jeunes, j'ai pas la même analyse que vous sur ce Brexit. Je pense que le Brexit a été important dans ce vote. Il a réveillé les jeunes. Mm-hmm. Parce que les jeunes ne s'est pas mobilisés lors du référendum. Mm-hmm. Et il y a eu comme si une génération leur avait volé leur avenir.
Ouais.
Et là, le fait qu'ils reviennent sur les urnes, c'est effectivement un peu le vote de la seconde chance pour eux, et de dire non, nous aussi, on décide de notre avenir.
Absolument. Mais je suis pas sûr, je suis pas du tout convaincu que c'était motivé par le Brexit. Vraiment. Je veux dire, je suis pas du tout convaincu que les jeunes ont massivement voté pour ne pas avoir de Brexit.
Parce que le Brexit, nous, ce que l'on aimerait, je pense.
Ça les a réveillés, absolument.
Ce que l'on aimerait que vous nous disiez, John Henley, c'est que vous regrettez le Brexit, que finalement,
à mort,
vous pouvez pas faire
à
sans
mort. Vous. Mais malheureusement, je ne suis pas majoritaire en Grande-Bretagne.
Alors vous les Anglais.
Mais non, ce n'est pas vrai. En fait, on a vu, dans les sondages, il y a 2-3 semaines, l'émergence d'un phénomène tout à fait extraordinaire. C'était, on sait, on a voté 48% pour rester, 52% pour partir, pour quitter l'Union européenne. En fait, ce n'est plus le cas. On est aujourd'hui à 45% pour partir, toujours, mais on est à 25% pour rester, mais 25% de ceux qui ont voté pour partir souhaitent maintenant que le Brexit ait lieu. Donc, Richard Vidal. Ils ont changé d'avis.
Oui, les gens sont obsédés avec l'idée que la voix du peuple doit être respectée. Oui. C'est un peu ça.
C'est le vote démocratique.
Exactement, oui. Mais en plus, je crois que il faut comprendre qu'il y a maintenant deux populismes. Il y a le populisme UKIP, mais aussi Corbyn est un populiste. Et c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment un parti, il n'a pas un parti de gouvernement. C'est un parti de protestation, un parti un peu fondé sur l'idée même de sortir les sautons.
Mais les conservateurs l'ont beaucoup accusé de faire des promesses qu'il pourra jamais financer, comme la renationalisation des chemins de fer, des aides sociales, les étudiants.
Je crois que c'est un peu ça. Et il faut dire qu'on a l'impression qu'il y a même des gens qui ont voté UKIP dans le passé, qui ont voté Corbyn hier.
Les milieux d'affaires, manifestement, ne sont pas heureux de ce qui est en train de se dérouler après le Brexit. C'est un deuxième traumatisme pour eux, John Henley?
Oui, ce que les milieux d'affaires, les marchés détestent surtout, c'est l'incertitude. Et là, on est parti pour une bonne période d'incertitude.
Mais au-delà de ça, le programme de Jeremy Corbyn est manifestement très hostile aux milieux d'affaires. C'est quelqu'un qui a eu une campagne hostile aux élites avec un certain nombre de slogans qui montraient que pour lui, il fallait vraiment renverser la vapeur.
C'est traditionnellement le cas. Le parti travailliste britannique, oui, c'est toujours présenté comme parti qui veut taxer les riches.
À la différence de Tony Blair.
À la différence de Tony Blair avec qui il y a vraiment, surtout le jeune Tony Blair, il y a vraiment énormément de parallèles avec Emmanuel Macron en France.
Pourquoi?
Parce que Tony Blair avait toujours compris que pour pouvoir redistribuer de la richesse, il fallait d'abord en créer, et que comme on vit dans un monde qui est, si on l'aime ou pas, dirigé de façon sur un système capitaliste, ce serait très très bête d'essayer de gérer l'économie autrement que un petit peu à droite. Mais par contre, il fallait donc contrer ça avec une politique sociale un petit peu à gauche. Donc c'était ça le modèle.
Oui, centriste, voilà. À troisième voie.
Absolument.
Richard Vinen, votre point de vue là-dessus?
Je crois que oui, je suis d'accord avec mon collègue. Je crois que nous sommes plus avancés dans un cycle, ou peut-être moins avancés dans le cycle politique que la France, dans le sens que nous avons déjà eu notre Macron, et maintenant on est en train de rejeter ce modèle. Et je ne sais pas ce qui va arriver chez vous.
Il y aurait, en tout cas, des commentaires sont faits pour dire que Jeremy Corbyn pourrait se rapprocher de Jean-Luc Mélenchon, par exemple.
Oui, c'est possible.
Merci à tous les deux de nous avoir donné votre point de vue sur ces élections qui rebattent les cartes avec un pari raté pour Theresa May et une période d'incertitude, même si tous les deux vous pensez qu'il va être extrêmement compliqué pour elle, Theresa May, même si elle est à la tête d'un parti qui n'est plus majoritaire mais qui sera le premier parti anglais à la sortie des urnes, de se maintenir au pouvoir. On se retrouve aux environs de 8h20. Nous serons en compagnie d'un penseur indien vivant à Londres, Pankaj Mishra, qui publie The Age of Anger, l'âge de la colère, un essai extrêmement important sur le mouvement des populismes et cette colère qui gronde depuis New Delhi jusqu'à Pittsburgh, avec un certain nombre d'explications sur le ressentiment des peuples. Vous l'entendrez aux environs de 8h20.